Mes chers amis, la dernière fois, nous avons regardé un peu les débuts de l'art chrétien et nous avons passé un bon moment, si on peut dire, dans les catacombes de Rome, par ce monde de la Rome souterraine qui est, on peut dire, le monument le plus important et le plus extraordinaire par sa richesse et la variante le caractère varié des thèmes qui sont représentés, et aussi on peut y discerner, comme nous l'avons vu, une certaine évolution de l'art chrétien, des images, disons, plutôt symboliques et à la limite même au début, purement décoratif, végétal, jusqu'à travers des scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, jusqu'à des compositions qui sont, on pourrait dire, comme une anticipation de ce qui va suivre, c'est-à-dire des œuvres plus grandes, on pourrait dire même monumentales, que nous allons voir aujourd'hui, dont les grands sanctuaires chrétiens de l'époque post-constantinienne, je dirais qu'on va regarder donc ce qui s'est passé après l'an 313, c'est-à-dire la date de l'édit de Milan, quand les persécutions ont été arrêtées pour tout bon, et quand, un peu plus tard, à la fin du IVe siècle, sous Théodose Ier, la religion chrétienne devient la religion d'État de l'Empire romain. Ce que je essayais de dégager aussi la dernière fois, c'est que, à l'intérieur de l'art chrétien, il y a des thèmes qui sont articulés et qui vont dans le sens d'un développement de l'image personnelle. De l'image personnelle, et ça se voit notamment de façon tout à fait claire dans l'évolution de la représentation du Christ, parce que nous avons vu au début, d'ailleurs les premières images du Christ étaient plutôt quasiment symboliques parce qu'il y avait des images, ou alors des transpositions des thèmes païens dans un contexte chrétien, comme par exemple nous avons vu l'image du bon berger, que nous avons vu plusieurs exemples dans les catacombes. Nous avons vu aussi un Christ soleil, mosaïque, qui telle une apothéose impériale, monte au ciel. Et puis nous avons surtout vu le Christ thaumaturge, qui, avec son bâton de thaumaturge, par exemple, ressuscite Lazare, guérit des gens. Ce type du Christ, qu'on appelait, comme on a vu, le type hellénistique, c'est-à-dire un jeune homme aux cheveux courts, imberbe, et qui est caractérisé essentiellement par son acte d'accomplir un miracle, le thaumaturge. Une évolution dans ce sens-là a été l'iconographie du Christ en Simeon, qui d'abord est aussi représenté toujours dans le même schéma iconographique comme un jeune homme de type hellénistique, mais entouré de ses disciples. Nous avons vu que des deux côtés du Christ, dans l'iconographie du Christ enseignant, du Christ magister, du Christ Christos didaskalos, il y a donc ses disciples, et que cette scène remonte représente des disputes des savants dans l'époque de la basse antiquité, la dispute disputatio savante, où les philosophes, les sages, s'entretiennent sur des problèmes sans doute métaphysiques, et que cette image a eu un écho considérable dans l'art des catacombes. Et nous savons que ce Christ enseignant, cette iconographie était très populaire jusqu'au moment où, à peu près vers le 6e siècle, peut-être plutôt le 7e, jusqu'au moment où on a voulu créer une image particulière pour la Pentecôte. Et alors à ce moment-là, on a supprimé la personne du Christ au milieu, on a gardé une place libre, on a représenté que les apôtres, avec une lance de feu sur la tête de chaque apôtre, qui reçoit donc ce don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ceci montre qu'il y a une évolution intérieure à l'intérieur de l'art chrétien et que les différentes formules iconographiques qui ont été développées en partie déjà dans les catacombes, comme par exemple la formule iconographique du repas, de la rencontre, du baptême aussi. Nous avons vu quelques exemples de baptêmes et nous avons pu constater que pour créer cette image, parce qu'il s'agissait vraiment d'une création, pour créer cette image, eh bien, les artistes se sont référés tout simplement au rite tel qu'il était célébré, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'eau, debout dans l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est pas le moment où il est totalement immergé dans l'eau et qui est représenté, on aurait pu imaginer ça, mais ce moment où celui qui baptise, c'est l'imposition de la main. C'est-à-dire, on pourrait dire, comme aurait dit le père Nicolas Fama, c'est une forme de consécration. C'est l'imposition de la main. Alors, on peut relier ça, si on veut, à la théologie du sacerdoce royal, etc., etc., ça ouvre des perspectives. Donc, nous avons vu toutes ces différentes formes, et nous allons terminer avec les trois images que je vous propose de revoir maintenant pour nous remettre un peu dans l'atmosphère. Alors, donc, nous avons ici le... c'est une partie d'un célèbre sarcophage, le sarcophage d'un monsieur qui s'appelait Junius Bassus et qui était visiblement, dont c'était le sarcophage, j'imagine. Et sur la paroi de ce sarcophage, nous avons au centre, cette représentation qui montre un Christ, d'ailleurs du type hellénistique, comme vous pouvez le constater, un Christ jeune, du type hellénistique, assis sur un trône. Et le fait qu'il soit assis sur un trône, de ce trône, on voit ici très bien le pied sculpté, mais pas avec une tête de pied. Qui est en fait l'image d'un lion, et avec ce assez imposant marchepied, escabeau. Cet escabeau qui est, comme on l'a déjà vu la dernière fois, qui fait partie du meuble trône. Un trône qui se respecte a aussi un marchepied. C'est notamment parce que le marche-pied n'est pas seulement pour les pieds, mais peut aussi concerner le trône. Donc ça rehausse le siège par rapport aux gens qui se tiennent même debout à côté. Sa tête est plus haute que les deux gens qui sont les deux personnes qui sont Pierre et Paul à côté. Parce que cet escabeau est assez
Alors, ce qui nous a particulièrement intrigué, je te l'ai dit dans un instant, vous reconnaissez ici évidemment une scène que nous avons souvent vue dans les catacombes, sur d'autres sarcophages notamment, c'est cette composition qui s'appelle Dominus Legem, c'est-à-dire le Seigneur donne la loi. Et la loi, si on l'a appelée comme ça, je ne sais pas très bien qui a inventé ce nom pour cette composition, mais l'idée c'est que là il y a un rouleau, un phylactère, un texte écrit, et il le donne avec sa main droite à l'apôtre qui est à sa droite et qui est sans aucun doute Pierre, parce que toutes ces traditions romaines sur les sarcophages et même sur quelques fresques dans les catacombes, c'est toujours Pierre qui reçoit cette nouvelle loi du Nouveau Testament du Christ. De l'autre côté, il y a saint Paul. Donc, malheureusement, l'avant-bras et la main du Christ, l'avant-bras et la main gauche ont disparu. Ce qui a surtout retenu notre attention dans cette composition, vous voyez la perfection encore classique de la sculpture, très hellénistique, pourrait-on dire. Alors, justement, au niveau de l'escabeau, il y a une figure allégorique dont on voit que le haut du buste, avec les bras, les épaules, barbus, les cheveux longs, tout ça, ça donne une allure d'allégorie païenne, si vous voulez. Et en effet, c'est une allégorie païenne qui est appelée Uranos, c'est-à-dire Uranos, c'est-à-dire Tchelos en latin, donc le ciel, c'est-à-dire ce qu'il tient avec les deux mains, ce voile qu'il tient, ce voile symbolise la voûte cosmique. Autrement dit, le sens de cette composition, c'est que dans les psaumes, il est dit quelque chose sur le trône et le ciel de l'un, et les cieux sont marche-pied. Autrement dit, le Christ est représenté dans une situation supra-céleste. C'est ça. Et comme nous sommes avec ce sarcophage au IVe siècle, nous pouvons facilement établir le lien avec la crise arienne, comme nous le savons, Arius avait nié la divinité du Christ, et cette insistance sur le Christ comme celui qui régit le cosmos, celui qui est un cosmocrate, comme on dit en grec, est une façon d'affirmer sa divinité, tout simplement. On peut le dire comme ça. Et ça, c'est une nouveauté. C'est un élément doctrinal, on pourrait dire, quand même proprement théologique, qui, d'une façon à l'antique, avec donc des allégories, etc., est exprimé ici. Et c'est l'idée même que je veux retenir, parce que sous cette forme-là, avec cet ouranos, etc., ça ne va pas se vivre sous cette forme-là dans l'art chrétien ultérieur. Ça reste pas une chose typique pour la basse antiquité, mais l'idée du cosmocrate, évidemment, est une idée qui est pas seulement une idée, mais qui est une vérité de la foi chrétienne et qui sera sous différentes formes, souvent repris. Voilà, donc. Ici, nous avons une autre forme. Est-ce que j'ai l'impression que non, ça va. Est-ce que c'est lisible là-haut?
Oui.
Parce que de mon côté, non, c'est pas grave. Ici, nous revenons à la peinture. Je pense que nous avons vu cette image aussi la dernière fois. On a terminé avec ces trois images qu'on voit là. En ce moment, c'est une composition à deux rangées, à deux niveaux, ce qui nous fait immédiatement penser aux compositions que nous allons trouver dans les absides des basiliques les plus anciennes. Il y a, si vous voulez, des sujets qui ont été représentés comme ce sujet-là sur le sarcophage et qui ont été après tout simplement transposés dans les absides des basiliques. Ça, c'est une autre variante de ces sujets qui ont été transposés. Qu'est-ce que nous voyons en haut? Il y a le Christ, et vous remarquez que ici le Christ n'est plus ce jeune homme hellénistique aux cheveux bouclés et imberbes, mais c'est déjà le type iconique du Christ qui est assis sur un trône très impressionnant, avec un énorme coussin, un marche-pied, il est venu de pourpre, c'est-à-dire la couleur royale, impériale, avec Alpha et Omega et les deux apôtres, Pierre et Paul, à ses côtés. Et dans la rangée inférieure, il y a au milieu l'agneau sur la monticule du paradis avec les quatre fleurs donc, et les personnages qui acclament, les gestes d'acclamation, le Christ et les apôtres. Et ce schéma, si vous voulez, avec un Christ en majesté, puisqu'il est sur un trône, il sera aussi des fois debout, mais c'est le trône qui souligne, n'est-ce pas, sa majesté. Ce schéma va être repris nombreuses fois dans les absides paléochrétiennes, ou disons des premières, peut-être pas paléochrétiennes, c'est peut-être plus le mot qui convient, dans les premières, disons, dans les premières plus anciennes basiliques chrétiennes qui, comme nous le verrons, étaient en partie décorées par des images. Voilà. Et nous avions terminé la dernière fois avec cette fresque, donc qui de toute évidence représente le Christ, et dont nous avons dit que nous voyons là l'apparition de ce que sera, ce qui va devenir le portrait iconique du Christ. C'est une fresque dans une des catacombes. Vous savez que les catacombes n'ont pas cessé d'être fréquentées après la paix de l'Église, après donc, le début du IVe siècle. Ils ont encore fonctionné, même comme cimetière, au moins encore deux siècles. Et il y a des peintures qui sont dans certaines catacombes, et nous allons voir même aujourd'hui, qui appartiennent déjà à une toute autre époque de l'histoire de l'art chrétien. Voilà, donc, si vous voulez, le but un peu de l'opposer ici, que je me suis assigné, c'est d'essayer de montrer comment, au cours des premiers siècles, disons, entre les débuts de l'art chrétien et, disons, l'époque iconoclaste, ou l'époque immédiatement post-iconoclaste, on verra selon le temps dont nous disposons, comment a été articulée cette image que nous avons appelée pendant notre première rencontre, l'image spécifiquement chrétienne, c'est-à-dire pour nous l'icône. Et quels sont les différents facteurs qui ont contribué à articuler cette image? Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est de regarder une influence particulière qui, me semble-t-il, n'a pas toujours été assez dont on n'a pas peut-être toujours tenu assez compte, à laquelle on n'a pas toujours assez pensé, et c'est la décoration des premiers édifices culturels chrétiens. C'est-à-dire, nous allons nous poser la question, est-ce que l'image avait sa place, une place dans les lieux de culte, dans les lieux de culte chrétiens? Et si oui, quelle était cette place et éventuellement sa fonction? Alors, pour ce faire, nous allons tout de suite, voilà. Ici, juste pour rappeler, je pense que nous l'avions vu aussi, cette église, donc cette maison église, cette maison chrétienne, cette maison chrétienne de Douloureux-Éropos, où il y avait la salle, donc la cour intérieure, la salle de l'assemblée, avec éventuellement ici des restes de soit de siège épiscopal, peut-être de table d'hôtel, je ne sais pas trop, qui avait l'entrée, ça c'était la plus grande salle, et ici le baptistère. Et nous avons vu que c'est les images, ici on n'a pas trouvé, peut-être qu'il y en avait, mais on n'a rien trouvé, mais on a trouvé des images ici. Donc, dans le baptistère était la pièce, on dirait, la plus décorée. La suivante. Oui. Est-ce qu'on avait vu ça?
Non, pas ça, non.
Bon, alors ça, c'est juste pour donner une idée sur l'organisation de l'espace liturgique des synagogues. Vous savez que la science liturgique contemporaine a beaucoup insisté sur la dépendance, si vous voulez, de notre liturgie de la parole. Nous savons que notre Eucharistie, grosso modo, a deux parties. Il y a la première partie, qu'on appelle aussi la liturgie des catéchumènes, bon, comme quelquefois on chasse encore, mais enfin, dans des rares cas où il existe, il reste quand même. Bon. La liturgie de la parole qui consiste des lectures et aussi du sermon. C'est que, en principe, nous devrions, j'essaie de le faire depuis un moment, il est bon de prêcher après l'évangile. J'ai des confrères, n'est-ce pas, qui me disent, mais tu comprends, moi j'attends à la fin, il y a plus de monde. Je lui dis, tu vas prêcher tellement bien que les gens viendront t'écouter, même si tu prêches plus tôt. Et de toute façon, je veux dire, dans la liturgie, chaque chose a sa place, en principe. Alors, donc, il est bon et naturel de prêcher, je prêche à des convaincus, que je sais, mais il est utile de je pense qu'il y a des bonnes raisons pour cela. Alors là, pourquoi je montre ces trois plans? Parce qu'il y a des éléments dans cette... Ça, c'est des synagogues, des plans de synagogues qui ont été relevés en Palestine et qui montrent, d'après l'auteur de cette étude, des synagogues qui fonctionnaient au temps du Christ. Donc, par exemple, comme celle, je ne sais pas, de Capernaum, des choses comme ça. Alors, il y a des éléments qui, surtout dans celle du milieu, est la plus proche de ce qui sera l'aménagement, par exemple, des églises dans la région syro-palestinienne, disons, dans certaines parties, au moins, du patriarcat d'Antioche. Alors, il y a comme composante en général, il y a donc l'arche. Alors, l'arche, c'est là où sont déposées les écritures. Donc, ça peut être des phylactères. À cette époque-là, dans la basse antiquité, disons, c'était comme des phylactères qui se déroulaient, on peut dire, en déroulant. Il y a d'ailleurs
sur le, la bibliothèque de Brescia qu'on va regarder un jour, il y a le Christ qui est debout et qui déroule. C'est comme ça. Alors, ici, il y a les écritures. Il y a un voile devant, la menorah, pas le stage, à cette chandelier, à cette branche, et puis le béma qui est une sorte de podium, sur lequel on monte pour les lectures. C'est un peu comme nos liturgies pontificales. Il y a, je pense, chez vous aussi, un podium au milieu de l'église pour, quand l'évêque se lève, non? Oui. Et là, c'est le diacre qui lit aussi l'évangile dans cet endroit. Donc, ça c'est vrai, ça s'est maintenu. Et pourquoi elle lit au milieu de l'église? Pour que tout le monde ait entendu. C'était pas comme aujourd'hui, hein. Dans certaines églises, il y a des liturgies, c'est un habit terrible. Essayez de ne pas avoir des liturgies, parce que c'est pas liturgie. Pour développer, s'il faut un peu la voix, tu te donnes à mesure humaine. Et si on ne respecte pas la mesure humaine, on pêche contre la liturgie. Elle est faite pour des hommes, pas des hommes. Donc, ici, tout ça c'est un peu changé. Et ce qui est avec, il y a une petite lampée à changer aussi, de volant, c'est pas ici. Donc, vous avez ici un schéma, disons grosso modo, basilical. Avec les colonnes, un voile, la large. Après, l'arche va déménager là. Et puis, on peut, quand on lit le récit, pardon, le Christ a lu dans la synagogue de Capernaum, il est allé chercher l'écriture, il s'est assis sur le siège de Moïse, et là, il a lu et puis il a prêché. Donc, il y a, si dans cette synagogue, il y a quelque chose qui est le plus sacré, si j'ose dire, ça c'est l'âge où il y a les écritures. Cette présence des écritures a un caractère, nous dirons, quasi sacramentel. C'est ce qu'il y a de plus sacramentel dans cette synagogue. Et puis, pour le reste, c'est un arrangement pour que un didasque, un rabbi, enseigne les gens autour. Puis ici, ça c'est plus tard, ça, c'est, tout ça s'est concentré dans l'abside, et la chose du milieu a disparu, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que dans les églises syriennes anciennes, le béma s'est maintenu jusqu'au Moyen-Âge. Et puis nous pouvons dire que nous avons d'autres, certaines autres survivances de ce béma. Ce qui est intéressant, c'est évidemment que toutes ces synagogues étaient orientées vers Jérusalem. Donc ça, on l'a déjà dit l'autre fois. Parce que les églises chrétiennes sont orientées vers le soleil levant. Mais les synagogues sont orientées. Alors donc, ce mobilier nous a donné une idée sur la prochaine, sur les constances de la liturgie de la parole qui a aussi du point de vue d'autres éléments, le fait de faire des pauses entre les lectures par des chants, etc. Tout ça, c'était aussi, il y avait des livres là-dessus, sur des études comparatives entre la liturgie synagogale et la liturgie de la parole dans le culte chrétien. Alors, vous avez vu que ces synagogues qu'on vient de voir ont eu une structure qu'on peut appeler basilicale, enfin, c'est-à-dire très simple, un plan de rectangle, avec au bout une abside. Et ce plan basilical sera maintenu, enfin, sera tout simplement de façon tout à fait parallèle et même indépendante, adapté aussi pour les lieux de culte chrétiens.
dès que ces lieux de culte avaient pris une certaine ampleur, dès qu'il fallait créer de la place pour une assistance nombreuse. Vous savez que la basilique elle-même est un édifice, comment dirais-je, un genre d'édifice public au moment où nous sommes dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, qui a permis, qui était donc un lieu de rassemblement pour des occasions, soit des célébrations civiles, soit il y a aussi des tribunaux dans les basiliques, il y a différentes activités et aussi des basiliques de type mercantile où on faisait tout simplement, où on faisait acheter ce qu'il fallait.
Manger, oui,
les achats, voilà. Les marchés. Comme il y a des marchés couverts, même dans Paris, on ne voit rien. Donc, ces basiliques avaient en général une partie avec un podium et quelque chose qui rassemble beaucoup à ce que nous appelons une abside, c'est-à-dire une sorte de partie arrondie qui rehaussait le centre, là où le nef, c'est ce qu'on peut déjà appeler un transept, se rencontrait, c'est-à-dire l'endroit central de cet édifice. En partant donc de l'idée qu'il y a une assistance dans cet espace, et qu'il y a soit un magistrat, soit une personnalité importante dans cette région-là, il y avait donc une sorte d'assistance et une sorte de personne en action. Et c'est ce schéma architectural qui a été donc adopté et adapté au culte chrétien, on peut dire. Avec cet espace pour l'assistance, on pourrait dire qu'il y avait au milieu certainement un endroit qui était l'héritier du béma syrien au milieu pour les lectures, et puis dans la mesure où adopter la forme de la liturgie, disons, par exemple, byzantine, il y a des étapes, mais pas l'entrée du célébrant qui s'arrête d'abord au milieu, comme nos évêques font toujours pile, la petite entrée, la montée vers le sanctuaire, puisque il y avait dans cet édifice et dans cet espace deux régions, je ne dis pas séparées, il ne faut pas les séparer, mais distinctes, on peut dire distinctes, qui sont donc la mer, c'est le lieu par excellence de l'Assemblée, et puis ici, forcément à l'est, puisque les églises chrétiennes étaient orientées au sens plein du mot, regardées vers l'est, dans l'espace qui est circonscrit par l'abside et devant, c'est devenu ce que nous appelons maintenant le sanctuaire, l'autel de cet espace liturgique dans lequel il faut le sentir. Il y a comme une ligne de force. Moi, j'ai dessiné dans ce dessin cette ligne et j'ai écrit dessus Maranatha. Moi, j'ai dit c'est Maranatha. Maranatha, c'est le dernier mot du Nouveau Testament. Et ça veut dire que c'est les fameux mots qui disent Seigneur, viens. C'est-à-dire, c'est l'appel de la venue du Christ. Autrement dit, dont il y a comme inscrite dans la structure même de la basilique ce qu'on appelle la tension eschatologique de la communauté chrétienne de l'époque. Cette attente. Ou plutôt, c'est plus qu'une attente, c'est pas une chose passive. c'est plus que l'attente, c'est la marche ou le mouvement vers le Christ qui vient. Et il vient donc d'une double façon, si vous voulez, évidente. Nous allons voir que le décor de l'abside étant donc l'endroit où que tout le monde ici présent dans l'assistance regarde. Et tout le monde est là comme ça. On regarde là. Donc il est important de savoir qu'est-ce qui est représenté là. Parce que ce qui est représenté là, et éventuellement vraiment plus large, ça c'est vu, tout le monde voit ça. Il se trouve donc devant cette image. Et c'est donc je dis que ce n'est pas un hasard si ici, sur ce mur, sur cette abside, nous allons voir des images d'abord de caractère théophanique, parce que qui vont montrer une apparition, qui vont révéler, des images qui vont révéler la présence du Christ, mais qui vont même exprimer l'idée de la seconde venue, qui correspond à ce mot Maranatha. Alors, pour le moment, je voudrais m'arrêter là, parce que les images que nous allons regarder vont, d'abord, nous allons regarder des basiliques. Est-ce que tu peux te rappeler de cette image, quel est le numéro ou quelque chose pour qu'on puisse la retrouver tout à l'heure? Alors, donc, voilà. Ici, c'est les ruines, malheureusement, d'un grand sanctuaire qui était à l'époque un des plus grands sanctuaires de la chrétienté. Il s'agit du sanctuaire de Saint-Siméon le Stylite en Syrie. Et vous voyez ici une basilique, une structure basilicale très, très prononcée, avec cette belle rondeur de l'abside et les trois fenêtres dans cette abside, trois donc, sources de lumière. Page prochaine. Voilà, de plus près encore, cette j'ai vu des photos récentes. Entre-temps, le haut de la coupole s'est effondré, malheureusement. Ça s'était fait sans doute à l'époque où la Syrie avait le privilège d'être française. C'est noir et blanc, c'est des photos en couleur. Mais ça donne une très bonne idée de ce que c'était. La suivante. Voilà, c'est surtout celle-là que je vois. Vous voyez quel est vraiment le. Alors, cette forme-là, il faut la retenir parce qu'elle est tout à fait fondamentale pour ce qui va suivre. Oui. Ici, un schéma de la basilique de Saint-Paul hors les murs à Rome. Le principe est simple, vous avez donc la nef centrale qui est plus large. Et ici, c'est une grande basilique. Souvent, les basiliques sont à trois nefs. La nef verte, et puis nord et sud. Mais ici, il y a cinq. Il y a deux nefs latéraux. Latéral. Et évidemment, le principe ici, c'était que la lumière venait essentiellement des deux rangées de fenêtres, ce qui laissait la possibilité d'avoir ici éventuellement des images, et puis aussi évidemment des fenêtres sur le bas-côté, mais la lumière principale venait de là. Et puis vous voyez au bout, ce qui a l'air d'une sorte d'arc de triomphe par là, autour de l'abside, et ici, ça donne aussi la possibilité de mettre des images. Oui, facile. Alors, une vue extérieure, ça c'est une des basiliques de Ravenne. On voit de l'extérieur, c'est d'une simplicité étonnante, puisqu'il y a vraiment, mais c'est assez haut, c'est très simple. assez haut, cette hauteur s'explique notamment par la volonté d'avoir des fenêtres relativement grandes qui aient assez de lumière, beaucoup de lumière. La suivante, voilà l'intérieur d'une de ces basiliques. Malheureusement, tout ce qui était dans la... Dans ça, il s'agit de Saint-Apollinaire Nuovo, c'est-à-dire c'est encore à la veine. Avant, cette église s'appelait Saint-Jean le théologien. Il a été pendant un moment concédé aux Ariens. Les Goths étaient Ariens, donc à l'époque de Théodorique. Je pense qu'ils avaient cette église. Et ce que vous voyez ici, c'est plusieurs choses typiques. Alors, vous avez la rangée des fenêtres ici, c'est très, très évident. Et puis, comme je vous ai indiqué cette ligne, Maranatha, vous avez deux processions de martyrs. Ici, du côté nord, c'est nord, ça doit être nord. Alors, ici, c'est sud. Ici, vous avez une théorie, une procession de martyrs, femmes martyrs, qui se dirigent vers l'abside. Et quoi que soit l'image, n'est-ce pas, théophanique dans l'abside, c'était un Christ en majesté, en gloire, enfin, ça peut être que ça. Et ici, de ce côté-là, il y a une procession analogique d'hommes martyrs. Et vous voyez aussi que les basiliques de l'époque avaient encore le plafond romain en bois et plat. La voûte, c'est que l'arc de l'abside qui est en voûte. Mais donc, plus tard, avec l'arc roman, etc., les voûtes vont couvrir l'ensemble de l'espace. Mais ici, ils sont encore en bois et sont là. La suivante. Ah voilà, les messieurs. Voilà, les messieurs. Donc, les martyrs. Et c'est aussi très intéressant, et ça ne peut pas être un hasard. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 colonnes. Chaque fois, c'est une. Évidemment, tout le monde pense immédiatement aux 12 apôtres, et pourquoi pas. Il y a bon, les 12 colonnes de la foi que sont les apôtres, mais c'est intéressant de noter que c'est dans toutes les basiliques arabes, il y a 12 colonnes. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ici, nous sommes déjà dans des basiliques enfin, très développées, même si je suis un peu étonné que ce soit cet ordre de choses, parce que c'était, j'ai montré ça, pas parce que pour la date, mais pour le fait que, à cause des processions, parce que ces processions soulignent ce mouvement inhérent à l'édifice de la basilique, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok, encore une fois. Et là, on voit qu'ils partent de la ville. Ils vont vers le ciel, vers le Christ. Encore, on va de plus près, c'est là. Ils portent la couronne de martyrs. Avec, et c'est très, très beau parce que nous savons pourquoi nous avons cette matière que, par exemple, en Orient, et même dans l'Église grecque, même l'évêque, quand il sort avec la croix, il ne prend pas la croix comme ça dans la main. Il a une petite étoffe, et par cette étoffe, à travers cette étoffe, il prend la croix. Ou aussi une des raisons pourquoi nous avons le plat, on appelle ça chez nous le plat, l'étoffe qui est avec le calice quand on sort. Et c'est aussi pour notre épaule. Mais c'est aussi pour ne pas un respect pour le Kalisme. Cette tradition, si vous voulez, est représentée ici. Ces martyrs portent leur propre couronne avec une étoffe, n'est-ce pas tellement, ces couronnes sont précieuses. C'est très beau. Mm-hmm. Voilà. Sinon, elles sont évidemment habillées dans le dernier cri de la mode de l'époque, en princesse byzantine. Parce que c'est déjà des. Mais tout ça a un caractère très céleste, bien sûr. La suivante. Alors, pour avoir une idée de ce qui aurait pu se trouver dans cette abside de Saint-Apollinaire, Apollinaire Nuovo, ici nous avons une image. Ça va comme ça? Ah, ça c'est le qu'on appelle Christos Latmus. C'est une mosaïque du 5e siècle qui se trouve dans une grotte, mais c'est mieux, en dehors, au-dessus de la ville de Salonique. Il y avait visiblement un lieu de culte, parce que c'est un peu somptueux pour une grotte d'ermite. C'est une très belle mosaïque avec un Christ en majesté qui est assis, comme vous voyez, sur un arc-en-ciel et qui fait le geste du triomphateur. Il est dans un clypeus qui va plus tard devenir plutôt une mandorle, mais ici c'est vraiment la forme du clypeus. Des quatre côtés, il y a les quatre vivants de la vision d'Ézéchiel. Il y a en bas le prophète Ézéchiel représenté, qui est agenouillé et qui a cette vision, si vous voulez, qui est évidemment donc cette vision de la gloire, qui est interprétée de façon christologique ici. C'est une mosaïque du 5e siècle, donc elle est un siècle plus tôt que ce que nous avons vu de Ravenne à l'instant, mais c'est à cause de cette thématique et aussi parce que c'est une des plus anciennes représentations du Christ en majesté de cette façon. Alors, à Santa Constanza, encore dans des absides, tout ça pour montrer que la thématique des absides est toujours théophanique. Vous voyez, c'est un peu artisanal, si vous voulez. Le Christ assis sur ce globe, cette sphère, qui est évidemment une façon d'évoquer le cosmos. Donc, le Christ cosmocrator qui tient un rouleau, et qui, avec sa main droite, c'est pas le legendat, il donne une clé antique à Saint-Pierre, l'apôtre Saint-Pierre, qui est là, tout ça devant sur un fond de palmier. Ce n'est pas une très très grande abside, mais c'est une, et vous remarquerez aussi le nain bleu. Bleu. Tout ça, c'est des traits et des libertés, enfin, si vous voulez, de l'art proprement paléo-chrétien, plus qu'autre chose. Et ici, les deux claves, n'est-ce pas, qui sont les bandes qui descendent jusqu'au pied sur les vêtements royaux de l'époque. Voilà. Donc, c'est une forme, disons, ancienne, primitive, d'une maestas domini, si vous voulez. Oui. Ici, dans une autre abside à Santa Constanza, ce Christ, alors, qui se tient en fait sur une monticule qui est la monticule du paradis, avec, et aussi on voit 1, 2, 3, on voit pas le quatrième, des fleuves. C'est peut-être de l'autre côté qui coule. Des fleuves du paradis. Donc, cette monticule avec les quatre fleuves, c'est le vocable de dire attention, paradis, céleste, quelque chose. Alors, il a cette attitude de nouveau, du triomphateur. Nous avons vu l'autre jour cette statue colossale de l'empereur qui tenait dans sa main la croix. Et si tout ça, c'est des nuages, et on dirait qu'il descend, ça va être encore plus frappant dans l'image suivante, un escalier de nuages. C'est comme à Versailles, mais c'est dans nuages. Et avec en bas des brebis, encore en bas. Donc, il a écrit Dominus Pacem Dat, avec un crisme. Il donne ça avec. Il donne ça. Alors, Pierre et Paul, des fois, ils changent de place. Tantôt, c'était encore comme ça sur les sarcophages. Une fois, c'est Pierre qui est à droite et Paul à gauche, une autre fois, c'est l'inverse. Mais comme avec cette main, je m'explique ça comme ça, que, puisque avec cette main, il fait ce geste, n'est-ce pas, un peu en l'air, pour donner quelque chose à Pierre, je le fais avec l'autre main. Et donc, Pierre se retrouve de ce côté-là. Parce que c'est la main droite, donc c'est la main qui s'allume. Mais vous voyez comme les types sont quand même expressifs, hein? C'était vraiment le type symétrique de Paul qui est prononcé. Pierre a une barbe un peu trop abondante, mais bon, ça peut arriver. Voilà cette figure de Christ. Étonnant, le nimbe bleu, les cheveux blonds, enfin bon, on aura tous les deux. Oui. Alors, ici, à Saint-Côme et Damien, vous avez vraiment l'escalier du nuage. On y est là. On ne peut pas faire mieux en termes d'escalier. Mais il descend, vient vers la commune. Et voilà, cette histoire des deux registres, dans le registre en haut et en bas, dans le registre, où les choses sont un peu répétées avec l'agneau, sur le monticule avec les quatre fleurs et le brebis, qui sont d'ailleurs 12. Alors ici, c'est aussi, on voit l'influence quand même de l'étiquette de la cour. Le Christ arrive en triomphateur, on est d'accord. Mais il y a Pierre et Paul qui introduisent les deux patrons de l'Église, Côme et Damien, auprès de sa majesté, et auprès du Christ majestueux, parce qu'on ne montre pas comme ça chez nous. Chez le souverain, même chez le souverain des cieux, donc on est introduit, ils portent leur voyez, ils portent leur couronne de martyr, et ça c'est l'évêque qui a fait construire l'église, parce qu'il a la maquette de l'église entre ses mains. Et c'est encore un autre Théodos, un de martyr qui est possible. Mais voyez cette scène, et tout cela dans un paysage de plus de... Ah oui, et attention, attention, en plus, il y a le, ici, il y a écrit Jordanes, c'est-à-dire, ici, le, là, il y a les quatre fleuves du paradis, mais ici, il y a le Jourdain. Le Jourdain qui fait fonction de ce paysage qui se veut paradisiaque, avec des fleurs, etc. Le Jourdain, il est là, là, c'est de l'eau, là. Il y a les nuages, et puis ici, c'est de l'eau. Et il y a écrit Jourdain, aussi. Il faudrait le voir en couleur, malheureusement. Voilà, encore une fois, la même. On voit, ici c'est plus arrondi, parce que c'est pris dans l'église même. Mais elle n'est pas très nette, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Et, bon, ça, c'est alors, ça, c'est la personne du Christ. On voit, pas bien. Sans... Tu peux revenir une seconde? C'est bien lui, c'est ce personnage. On voit ça, le majestueux. Voilà, on voit mieux comme ça. Alors, Pardon. Ici, nous avons une composition de la relative mouvement Petite Église de Santa Pudenziana à Rome, qui est une composition déjà très élaborée, parce que, il y a un Christ en majesté qui est assis sur un trône monumental, d'accord, très décoré d'ailleurs. Il y a l'assemblée des apôtres autour, et cette scène avec le Christ au milieu est un peu un souvenir du Christ enseignant, hein, du Christ enseignant, tout sur fond d'architecture qui est interprétée comme une évocation de la Jérusalem céleste, avec le mont de Golgotha, sur laquelle je pense que c'est Théodose, si je ne me trompe pas, qui avait fait ériger sur le Golgotha une grande croix gemmée avec des pierres précieuses, et dans le ciel nous retrouvons les quatre vivants. Ils sont devenus après les symboles, parce qu'ils sont quatre, il y a quatre évangiles. Mais chez Ézéchiel, enfin, ça vient de la vision d'Ézéchiel, et on l'a vu dans le Christos Latmos, dans le ciel, là, tout à l'heure, les quatre vivants. On les appelle les quatre vivants, Zodiac, okay? Les quatre vivants qui sont signes de théophanie, Quand il y a une théophanie, chez les églises d'Orient, par exemple les Coptes et les Syriens, ils les mettent, par exemple, dans la croix, dans les quatre coins de la croix ici, pour montrer que la croix est théophanique en elle-même. Donc c'est un vocable qu'on peut dire. Des fois, il est un peu la façon le corps humain est très 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 exprimé. Bon, le lion, le taureau et l'aigle. Bon, ça a été maladroitement restauré ici parmi les disciples. Il y a des choses qui sont pas du tout de l'Antiquité, mais la mosaïque elle-même date du 5e siècle.
Donc. Et c'est à cause de la restauration qu'on a l'impression que c'est de la peinture renaissantiste, ou c'était comme ça?
Non, c'est la restauration. Quelle impression on a?
Renaissantiste.
De renaissance.
Renaissante. Tout à fait. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est, parce que c'est la restauration. C'est pas.
On ne sait plus exactement comment c'était l'original.
Ben non, là ça c'est plutôt original. Hein. Là aussi, c'est peut-être. Peut-être celle-là, de la femme. Mais celle-là, certainement non. Celle-là non plus. Celle-là, évidemment, non plus. Et tout cet rangé-là, tout ça, c'est... Le pierre, ça va. Peut-être, l'ancien. Le Paul aussi. Mais bon, on le voit, comme vous dites, on le voit. Là, on peut encore voir de plus près. Là, c'est même... On va encore mieux. Même, j'en peux avoir des doutes sur la face du Christ. Hein.
Oui.
Le visage, ça n'a pas l'air très pas les chrétiens. Hein. Non, c'est pas. Non. Dominus conservator ecclesiae pudentiae. Voilà. Mais ça, c'est évidemment des visages qui sont espérés, comme vous dites, de la Renaissance. Mais l'ensemble, quand même, donne une idée de cette même sorte d'eschatologie presque wagnerienne. Très chargée, très intense. Ouais. Bah, juste pour montrer qu'il y a pas mal d'or, hein, qui est fait. Alors, ici, on va. Oui. D'accord, on continue. Ok, on a compris. Pour commencer, c'est à l'envers. Est-ce qu'on peut le retourner ou c'est compliqué?
Voilà.
Excusez-moi. Merci. Alors, voilà. Alors, ça c'est la chauve-souris. Ça c'est
Saint Apollinaire, nous enfants.
Et pourquoi je le montre? Parce qu'on voit tout le programme iconographique sur le mur latéral sud.
Bravo.
Sud. La théorie de la procession des martyrs se dirige, et c'est curieux parce que il y a ici un Christ en majesté sur le mur. Alors je me demande qu'est-ce qu'il y avait dans l'abside. Peut-être un jour il faudrait étudier la question. Mais on comprend quand même, c'est quand même ce mouvement de l'abside est bien exprimé, de la basilique est bien exprimé, ce mouvement. Bon, ici, les martyrs, je pense qu'ils sont précédés par Saint-Pierre, j'ai l'impression. Le Christ sur un trône avec les anges. En face, il y a une mère de Dieu sur le trône. Alors, là-haut, entre les fenêtres, c'est des saints, différents saints. Et ceux qui est très célèbre, peut-être même la partie la plus célèbre de toutes, c'est cette rangée supérieure où, dans les espaces au-dessus des fenêtres, chaque fois, ou même aussi chez certains personnages, il y a des scènes qui raconte ici notamment la passion du Christ. Donc des scènes du Nouveau Testament, de la vie et de la passion du Christ. Il y a ici le baiser de Judas, il y a l'arrestation du Christ, il y a le Christ qui prie et les disciples qui dorment à la Gethsémané, et il y a une très célèbre représentation de la Sainte Cène selon la mode hellénistique. Donc le président ici, de ce côté, c'est la table au sigma. Hein. Ici, du devant, les serviteurs apportaient à manger. Ils étaient tous allongés autour. Et en face, c'est le deuxième personnage, normalement. Il y avait cette hiérarchie. Donc, dans le repas, selon l'étiquette hellénistique, le président était toujours ici. Ce qui nous permet de dire, pour la Trinité de Roblov, que le président peut être de le père. Donc il est l'ange ici, de ce côté-ci. Et bon, il y a un très grand poisson ici. Donc nous rendons compte que cette basilique est décor iconographique très très riche, très très riche, avec, et voilà, ça c'est aussi un trait, avec un bon nombre de représentations de saints qui sont de facto des portraits, mais qui font ici partie du décor mural de l'Église. De l'espace liturgique. Alors, une des scènes qui se trouve, c'est la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Et qui sont les deux apôtres? Vous pouvez les reconnaître, bien sûr. Ben, le premier, de toute façon, c'est évident.
Pierre,
bien sûr, c'est Pierre. Et le second,
c'est son frère.
Ben oui, c'est André qui a toujours les cheveux en désordre. Il a toujours les cheveux en désordre. André, on le reconnaît toujours comme ça, même jusqu'à nos jours. Il est toujours mal coiffé. Et on a expliqué ça parce qu'il a été commencé non seulement dans les terres barbares comme Pierre, mais d'aller jusqu'en Écosse, paraît-il, où les gens, évidemment, ne se coiffent pas. Donc, c'est, ça fait partie de l'iconographie personnelle de d'André, Saint-André. Je fais comme ça. Voilà. Alors, là, nous sommes à San Vitale.
Déjà, San Vitale.
Oui. Parce qu'on progresse dans les abscisses. Alors, on fait difficilement mieux en tant que majesté eschatologique. Vous avez, d'abord, commençons par le bas, un paysage paradisiaque. Des petites fleurs qui poussent, la verdure, ce n'est pas le désert, c'est le contraire. Il y a de l'eau, il y a les quatre fleurs, puis il y a la sphère qu'on a vue tout à l'heure dans Santa Constance, comme symbole du cosmos et le Christ qui tient jeune, ça c'est étonnant, hein? Ça c'est un anachronisme habillé en pourpre avec la stèle, la couronne qu'il donne à Saint Vital, il donne la couronne du martyr au saint patron de l'église, hein, qui est Saint Vital, habillé là. Patricien, byzantin. Et d'ailleurs, l'ange lui met la main sur l'épaule. C'est-à-dire, il l'introduit auprès du Christ. C'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Et puis, par l'autre main, le Christ tient non pas un codex, mais un rouleau avec sept sceaux. Donc, un livre avec sept sceaux. Vous pouvez compter, c'est ça, c'est sept sceaux. De l'autre côté, c'est facile. Il y a donc un ecclésiastique, hein, qui d'ailleurs s'appelle, pour bien faire, cet ecclésiastique s'appelle Ecclésius. Et il est épiscopos. Il est donc l'évêque qui tient lui aussi, qui porte dans ses mains le modèle de la Cresta Chiesa, de cette église de Saint Vital. Et lui, dans d'autres circonstances, on lui aurait donné un nimbe carré, parce qu'il est vivant. Ici, ils ne l'ont pas fait. Mais il n'a pas lui, il a un nimbe, enfin, lui, il est évêque, mais il a une poitrine. Et vous voyez aussi la forme ancienne du pallium, enfin de l'amphore, qui est. Et comme c'est une église du 6e siècle, donc nous sommes à l'époque de Justinien, le pallium de Saint César d'Arles était à peu près comme ça. Il était à peu près comme ça, je sais, parce que c'est ma fille qui l'a restauré. Elle a regardé ces choses-là pour comprendre comment elles fonctionnent. Et alors là-haut, ce n'est pas le 14 juillet, rassurez-vous, hein? C'est des nuages eschatologiques, hein? Bleu, blanc, rouge. Et donc, ça commence dans les mosaïques de Rome, et ça continue jusqu'à Ravenne, hein? Il y a les nuages tricolores dans les théophanies. Ça fait partie de la fête. Une autre abside. Ah, il faut rentrer là. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ça va, vous voyez? Il n'y a pas un reflet de ça? Non, pas chez vous. Alors, ça, c'est une des merveilles. Des merveilles que nous pouvons regarder aujourd'hui. Ah oui, c'est bien. Alors, évidemment, c'est une abside, mais une grande abside. C'est une très grande église. J'étais impressionné par. C'est vraiment une grande, grande église. Très simple, c'est une basilique. Enfin, mais ça, c'est une composition qui. Nous sommes toujours. Donc, à Ravenne, tout ça, c'est 6e siècle, c'est Justinien. C'est toute cette même époque. Mais on ne sait pas ce qu'il y avait, on sait pas trop ce qu'il y avait à Constantinople à cette époque. Donc ça serait intéressant de savoir, mais je ne sais pas. Mais Ravenne, pour nous, atteste cet art extraordinaire c'est une mosaïque qui est, dont on ne peut pas dire que en soi, elle soit parlée aux chrétiennes par le métier artistique employé, mais elle est paléochrétienne dans son esprit, parce que elle parle encore le langage allégorique. Le langage allégorique qui va être abandonné dans l'histoire ultérieure de l'art chrétien, et nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir un exemple tout à fait frappant. Ici, il y a deux thèmes que vous pouvez distinguer. C'est donc Saint Apollinaire in classe, l'église, donc le saint patron, c'est Saint Apollinaire, un évêque de la reine de l'époque, qui se tient au milieu du registre inférieur de la mosaïque. Il est représenté en quoi? En
orang.
En orang. Très bien. Il a et même, pas seulement il a les bras levés, il a aussi les yeux levés, on ne le voit peut-être pas assez, il a les yeux levés là comme ça. Et qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il regarde ça. Il voit ça. C'est ça le sens de la chose. Oui? À l'intérieur de l'image. Et là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien là, nous avons un clipénus, c'est-à-dire une sphère de lumière, un bleu étoilé, dans ce clipéus, il y a une croix, et au croisement des bras de la croix, il y a un buste du Christ. On ne le voit pas très bien, mais vous pouvez le voir. Ici, il y a Jésus Christos en haut, il y a ici Salus Mundi, donc il y a des inscriptions. Ce clipéus est théophanique. C'est tout à fait clair, ça se veut théophanique. Et ça se met d'autant plus théophanique que ce que Apollinaire, Sanctus Apollinarius, contemple, selon cette composition, il est vert. Oui, encore une chose. Il y a ici, de deux côtés, six brebis qui s'approchent de Saint Apollinaire. Nous savons qu'au milieu, très souvent, il y a à l'endroit où il est représenté la monticule du paradis avec les quatre fleurs et l'agneau au-dessus, n'est-ce pas? Le Agnus Dei. Ici, c'est le saint patron, c'est une liberté qu'ils ont prise, et ça voudrait dire que il est le 13e des 12, c'est-à-dire il est iso-apostolos. Ravna apostole, égal aux apôtres. C'est un évêque, égal aux apôtres. Évêque, martyr, égal aux apôtres. Il a une vision. Alors, il voit cette croix théophanique qui représente un phénomène qui, il est vrai, difficilement supportable aux yeux humains, puisque nous avons devant cette croix, regardons, levons la tête vers cette croix, trois brebis, donc trois apôtres. Et nous avons dans le ciel Élie et Moïse, Moïse toujours jeune chez les Byzantins, Élie Dieu, dans les nuages, auprès de cette croix. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Et vers. Absolument. Mais dans le langage paléochrétien, pourquoi je vous ai dit, n'est-ce pas? Et en plus, bon, il y a évidemment les nuages tricolores, n'est-ce pas, de tout à l'heure. Et ici, il y a une petite main, enfin, elle n'est pas si petite que ça, mais il y a la dexia, la droite, c'est-à-dire, c'est la voix, comme dans la théophanie. Hein? Ceci est mon fils bien-aimé. La voix du Père. Donc, nous avons ici, là, dans cette région-là, dans la partie supérieure de cette mosaïque,
nous avons une évocation de la transfiguration. Donc lui, il contemple la transfiguration. C'est fantastique. Avec... Et puis on va dans l'hôtel, là, on a mis des saints, c'est très bien. Mais cette... Voilà une composition qui n'a pas d'égal, enfin qui est exceptionnelle dans ce jardin paradisiaque, le saint qui a cette vision. Alors, je vous montre ça, nota bene, parce que à la même époque de Justinien, quelque part en Orient, on trouve une autre représentation. Ah, pardon, ça c'est le jardin, juste pour le plaisir. Bon, on y tient encore, mais encore. Bon. Il y a, à la même époque, au Mont Sinaï, dans le monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï, cette étonnante, aussi étonnante, plus en plus étonnante, cette époque, la première, on pourrait dire, icône, ce qui va devenir l'icône canonique de la Transfiguration.
Très moderne.
Très moderne. Tout ça est très moderne, l'autre aussi est moderne à sa façon. Alors, il y a les trois, là, Johannes, Jacobus, Petrus, Ilias et Moïse. Ici, Moïse a quand même une barbe, c'est bien. On est en Orient. Et voilà le Christ dans cette monde d'or, sur fond d'or uni. Donc, ce qui est, en dehors de toutes les qualités de ces deux images, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que ces deux images sont contemporaines. Contemporaines. Donc, on voit que le monde est en... Et le progrès est évidemment en Orient. Enfin, le progrès au sens de l'autre langage, un langage d'une époque passée. Et ça va être, parce qu'il faut quand même dire que la victoire, bon, ça c'est bien avant, ça c'est deux siècles avant l'iconoclasme. Mais on comprend que la victoire sur l'iconoclasme était un comeback d'Antioche. D'Antioche, parce que, ayant les pieds sur terre, Alexandrie, quoique ici, nous sommes à Bauhit. Oui, parce que j'ai une mauvaise habitude de taper la table quand je ne vais pas changer. C'était juste pour je vais continuer, c'est bon là, on va y arriver. Voilà. Vous voyez aussi une chose typiquement byzantine, c'est la hauteur de marbre. Ça va rester comme ça jusqu'à Caligari, jusqu'au XIVe siècle. Et à Sainte-Sophie de Constantinople aussi, le marbre monte très haut et au fond, c'est que les voûtes et le toit qui sont en mosaïque. C'est-à-dire que pour voir ça, il faut lever la tête. Il faut vraiment lever la tête. Même quand on est dans l'église, il faut lever la tête. Autrement dit, ça renforce le caractère théophanique du décor, de ce genre de décor. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est, à vrai dire, ça, c'est la photo, malheureusement, on n'en pas de tous les couleurs. C'est un bleu profond. C'est un bleu très, très, très profond. Donc, vous savez que le bleu et l'infrarouge sont les couleurs les plus intenses. Donc, et tout est lumière. C'est peut-être une des images les plus fascinantes de cette fête. Et dans un sens, c'est touchant les brebis. Enfin, c'est gentil les brebis. Mais ici, c'est autre chose quand même.
C'est comme si on
vous êtes d'accord.
Tout le reste.
Plus to the point. Oui, moi je suis d'accord.
C'est l'essence même.
Oui, tout à fait.
mais ça coupe quand même le souffle. Voilà, alors juste pour faire bonne mesure, cette fresque d'une des, on parle des kings, en français on dit les chapelles, du monastère de Bawit, c'est près du Caire, donc en Égypte, un des monastères coptes, où dans les cellules des moines, il y avait quelque chose comme notre coin rouge, notre coin d'icône, Krasnivoda, où visiblement, c'était, donc c'était toujours à l'est, dans la cellule de moine. Autrement dit, il priait devant ça.
Il est terrible.
Fini.
C'est une petite abside dans le mur. Dans le mur. Du côté est. Et alors, vous voyez, c'est aussi. Ça montre comme, évidemment, tout le monde, je suis tout le monde qui regarde, vous voyez, c'est une ascension. Ok? C'est une ascension, mais pas seulement, enfin, si j'ose dire. Parce que c'est aussi un schéma du monde. Un schéma du monde. Oh, le Christ en gloire. Là, c'est des Nogachiti, Kérovim, les chérubins aux yeux nombreux, les quatre vivants là-dedans. Vous voyez, Théophanie, le Christ dans la mandorle, sur un trône. Et dans le livre, il a écrit Agios, 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 trois fois ça. Et les anges, ok. Il y a même des langues de feu là qui sortent. Ça fait. Ah, parce que c'est le char. Ici, vous avez les roues du char d'Ézéchiel. Hein, parce que c'est la vision du char d'Ézéchiel avec les quatre vivants, hein, qui est le Christ qui monte dans le char. Et puis ici, il y a une ligne qui note la différence de l'espace. Là, nous avons les douze apôtres et la mère de Dieu avec un petit Jésus sur un trône. Installé au mont des Oliviers au moment où le Christ monte au ciel. C'est le nec plus ultra, ça. C'est génial. Parce que, bon, dans le temps, il y a les deux niveaux. Voilà. Bon, moi, j'aime pas parler de l'église terrestre, de l'église céleste, parce que l'église est une, mais enfin, c'est évidemment l'unité de tout cela. En principe, ceux qui sont là, parce que nous avons le vocable iconographique est évidemment encore toujours le vocable de la vision. Ça veut dire qu'il y a l'objet de la vision et les visionnaires. Donc ça, c'est les visionnaires. Ici, tout le monde regarde devant soi. Et ils regardent devant soi, je pense, parce que ils savent qu'il y a quelqu'un ici, là, devant eux, qui leur adresse ses prières. Donc, il y a, et puis cette idée que la mère, il y a même dans une autre, je n'ai pas trouvé le diapo, mais dans une autre, abside de Bawit, comme on dit, il y a une mère de Dieu qui est en train d'allaiter le Christ. Fantastique. Sous le même disque qui monte au ciel. Donc, c'est des images, une autre variante de comment l'ascension peut être comprise en tant qu'image théophanique. Mais, en plus, c'est dans une petite, parce qu'ils sont grands comme ça. Un coin comme ça dans la chambre. Mais, et ça, en fait, la fonction, cette peinture-là, elle a une fonction liturgique très précise. Elle fonctionne comme une icône devant laquelle on prie. Et c'est là-dessus que nous allons reprendre la prochaine fois le fil de notre petite causerie.
Vous avez fait le départ, non ?
Ça, c'est 6e, 7e siècle. 6e, 7e. Donc, nous sommes avant l'économie, enfin, bien avant l'économie, l'époque économique. Un peu après Justinien. Donc, en fait, oui, ça sera pour la prochaine fois. Parce que il faut préciser l'influence de l'espace liturgique. L'influence de l'image sur l'espace liturgique et de l'espace liturgique sur l'image. Et ça sera la prochaine. Ça sera notre prochain sujet. Excusez-moi, j'étais toujours très bavard. Il y a peut-être une question, quelque chose, un commentaire. Mais là, nous sommes déjà dans des images quand même, entre-temps, maintenant, vous avez vu aussi comment le style se précise, le style proprement chrétien. Borbitz, c'est déjà iconographique. La transfiguration, et on sent l'Antiquité. Hein, les apôtres par terre, on sent l'Antiquité. Mais on sent aussi, c'est une image tout à fait. C'est, dans un sens, c'est beaucoup moins antique que justement Saint Apollinaire dans son jardin, dans le paradis.
C'est beaucoup plus.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'une représentation comme la dernière qu'on a vue en Égypte peut être tout simplement reprise aujourd'hui pour être utilisée comme telle?
Ah oui, je conseillerais.
D'accord. Oui. Ce ne sont pas des images qui sont pas des scènes qui sont en cours de formation, ça a déjà un sens.
Ah ben là, ça y est, c'est un. Comment dirais-je, là, le train est arrivé. Oui, on peut le dire comme ça. C'est il faut aussi insister, je pense, sur la variété des styles. Bon, là, c'était à Bawit, c'est vraiment l'Égypte, c'est le style qu'on voit, c'est le style égyptien, les particularités. L'œuvre du monastère de Sainte-Catherine, je pense qu'il est raisonnable de supposer que le brave Justinien a fait venir des artistes de Constantinople, parce que aussi il arrive comme ça dans des âges. Et pour Ravenne aussi, hein, vous savez, à l'époque de Justinien, Ravenne était une ville très importante. Elle a été d'ailleurs la capitale de l'Occident, de la partie occidentale de l'Empire. Elle a pris pendant un moment la place de Rome en tant que capitale politique. Donc, les artistes qui ont travaillé à Ravenne, j'aurais tendance de penser qu'ils sont aussi venus de Byzance. Parce que c'est quand même différent de la tradition romaine que nous avons vue du 5e siècle. C'est quand même autre chose. C'est plus artistiquement, disons, plus perfectionné, déjà, esthétiquement aussi. Donc ça suppose une certaine école, un certain savoir-faire. Aussi pour les couleurs, pour le plat. À côté des mosaïques de Ravenne que nous venons de voir, les mosaïques romaines qu'on a vues avant sont un peu artisanales. Enfin, comme ça.
Moi, j'ai observé des choses.
Oui.
Cet été, on a été dans une pèlerinage en Moldavie.
Ah oui.
Et une mouniane,
oui,
elle nous a raconté de l'escalier, en fait, des nuages. Ça représente
les nuages,
les ciels,
l'escalier.
Le ciel, les neuf ciels.
Ah.
Et aussi au monastère d'Arc, c'est le mâle qui est au-dessous. et des
rêves. Il y a une main à représenter. Oui. C'est toujours c'est la même c'est main. C'est la main de l'intervention divine, je suppose. Oui. Oui, pour les nuages, il y a, enfin je veux dire, c'est intéressant le destin des nuages, parce que nous avons vu des exemples ici, hein, et évidemment, les nuages, c'est une évocation de ce qu'on voit quand on regarde le ciel, disons comme ça. Parce que ici, dans les basiliques romaines, c'est un escalier de nuages par lequel le Christ arrive sur terre, vient vers nous. Et nous appartenons, nous, à cet univers où il y a des nuages, etc. Dans la mesure où on va insister de plus en plus sur une évocation du cosmos transfiguré, enfin, excusez-moi ce grand mot, mais c'est quand même ça, donc, quand il y a un fond d'or, comme par exemple au Sinaï, hein, tout est or, tout est lumière. Okay. Donc, et il va falloir un temps pour que les nuages reviennent. Ils vont revenir seulement avec la Renaissance. Quand on abandonne cette idée de l'espace vraiment proprement spirituel, transfiguré, parce que les nuages sont quand même un phénomène météorologique. Et c'est pour ça que, par exemple, à partir de la Renaissance, dans le baroque, vous avez des châteaux de nuages dans les coupoles baroques sur lesquels sont assis des saints plus ou moins confortablement assis, qui regardent en général vers le ciel, ou parce que tout en haut il y a le Christ, ou en plus ça peut être Dieu le Père, ça dépend où il croit. Et les nuages comme élément météorologique reviennent avec la Renaissance. Et c'est pour ça que l'autre jour, je ne sais plus où, vous avez un exemple tout à fait frappant dans la chapelle Sixtine. Dans la chapelle Sixtine, il y a un cosmonaute égaré, barbu, n'est-ce pas, qui n'est pas le dieu de la Bible, mais qui est peut-être Zeus, Jupiter, tout ce que vous voulez, mais pas le dieu de la Bible. Mais lui, il est en train de parler des nuages, n'est-ce pas, etc. Bon, ça, c'est comme toute la chose est retombée dans le monde déchu. Et dans l'iconographie, enfin orthodoxe, comme ça, traditionnelle, les nuages aussi réapparaissent avec le début d'influence occidentale. D'abord, ils sont très modestes, très longs, pas très nuages. Puis, ils vont devenir des nuages au XIXe siècle, tout à fait météorologiques. Mais c'est pas du tout pour contredire votre monial, mais je veux dire. Le destin des nuages dans les icônes, à ce sens-là, est intéressant. Parce qu'ils ont existé au début, mais dans un but très précis, pas pour être l'escalier, le marche-pied pour le Christ qui descend vers nous. Puis, en principe, en tant que nuage, en tant que phénomène météorologique, ils ne sont plus dans le ciel, parce que le ciel qui est représenté dans les mosaïques ou dans les icônes est plus haut que les nuages. C'est très simple. Pour ça. Enfin, excusez-moi. Oui, je me suis exprimé clairement.
C'est quand même étonnant, ce jardin, on peut l'appeler ce jardin,
extraordinaire,
d'où ça peut venir, enfin, comment ça peut être aussi différent, parce que c'est extrêmement différent. Il y a une essence, mais alors vraiment, sans aucun dans celle d'Orient. Et là,
le jardin.
Oui.
Mais le Ravenne, c'est.
Mais
j'ai été à Ravenne. Oui, d'accord. Mais Ravenne, à l'époque, était une ville orientale. C'est un peu la Marseille de l'époque. Non, mais tous les gens, tout ce qui c'est des gens qui sont venus d'Orient qui ont fait ça.
Oui, bien sûr. Mais
Et c'est ça qui est étonnant, tout à fait, que.
Ah oui.
À Ravenne, il se trouve que. Mais le fait que cette autre mosaïque de la Transition se trouve au Mont Sinaï, et anticipe en fait toute l'iconographie ultérieure orientale de la transfiguration. Oui, c'est tout à fait frappant.
Hein. Je dirais.
Ça veut dire qu'on était quand même, là, comment dire, si on peut dire comme ça, la créativité à l'époque était en Orient. Parce que l'image la plus nouvelle dans sa conception de ce que c'est, enfin pour les, oui, la plus moderne dans ce sens-là, la plus nouvelle, c'était bien sûr celle du Sinaï.
Bien sûr.
Hein? Le langage, c'est pour ça que je disais que le langage de Saint-Apollinaire à une classe est encore le langage paléochrétien, avec les brebis, avec les fleurs, avec le jardin. Donc, l'inspiration pour les images, enfin, théologiques, bien qu'il y a des idées très claires dans celle de Saint-Apollinaire. Bon, on les a vues, qu'il y a l'intégration de l'égal des apôtres, qui a cette vision, mais la vision en tant que telle est représentée à moitié, ben plus qu'un peu, à deux tiers, avec un vocabulaire allégorique. Et ce n'est pas le cas aussi.
Mais comment se fait-il qu'un langage tient pour quelques siècles et senti comme imparfait et évolue vers quelque chose
parce d'autre. Que vous avez le un très bon exemple.
Ça vient à quoi cette évolution?
Ça vient de la. C'est un des fruits.
Ça vient au culte
ou... Je vais essayer de donner une réponse. Ça tient d'abord, avant tout, je pense, au développement de la théologie,
au développement, un approfondissement
de la christologie. Parce qu'une image comme celle du Sinaï, ça suppose vraiment ce que enfin, moi j'aime appeler le théopaschisme post-calcédonien, ou calcédonien tout simplement, c'est-à-dire que, où on est conscient que l'hypostase, c'est ce que disait Cyril d'Alexandrie, c'est si clairement que la personne du Verbe prééternel est Jésus-Christ, c'est la même hypostase. Donc l'hypostase dit, donc une forme humaine, un corps humain, dans cette mondole, cette morphée, cette forme, elle, c'est le corps humain de Dieu. Et ce corps humain de Dieu peut être représenté, et il vaut mieux le représenter, comme dit le 82e canon du Concile in Trullo. Nous préférons représenter notre Seigneur sous son aspect humain, à la place de l'agneau antique, parce que c'est une confession de sa incarnation véritable. Et c'est comme ça, l'image devient une confession de la foi. Hein, et il le restera dans l'orthodoxie à jamais. Et ça sera la grande question de dispute avec les iconoclastes.
On pourrait dire ce que vous avez dit.
Donc il faut mieux expliquer un mot et aussi une image.
Oui. Et parce qu'il y a cette conscience que si on représente le Christ et on demande qui, hein, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que l'hypostase divine, il n'y a pas d'hypostase humaine. C'est pas l'Église, c'est pas vrai. Une personne. Et ce qu'il a pris, on montre ce qui était visible du Christ quand il était sur terre. Ça compte. Et si c'était la transfiguration, ben on le met dans une mentorle et on représente la lumière de cette façon.
La mosaïque de Ravenne, on pourrait peut-être penser ce que vous avez dit la dernière fois. C'est quelque chose de narratif, on pourrait dire.
C'est dans un sens plus narratif,
ça
plus illustratif.
Ça pourrait être la Genèse, par exemple. Bon, on voit tout ce que Dieu a créé.
C'est le jardin. Mais le jardin, ça veut tout simplement dire paradisiaque. Enfin, c'est théophanique, paradisiaque, c'est un ensemble.
Mais c'est plus narratif, c'est moins profond. C'est... On a l'impression que la pensée, elle a évolué et qu'elle est allée vers la profondeur, elle ne s'éparpille plus.
Après, dans les icônes, ce n'est pas toujours comme on s'imagine, vous savez bien, ça a été des montagnes, ça a été aussi bon, c'est un paysage moins souriant, si vous voulez, mais c'est au contraire, c'est les falaises, c'est la montagne, mais c'est une montagne quand même, qui d'ailleurs va grandir avec le temps. Et donc les apôtres, ils vont tomber vraiment sur une falaise. À la fin, à l'époque paléologue, non, je vais vous laisser reposer parce que il ne se fait pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.